Le débat du jour.
Anne Cantner.
Bonsoir à tous. Nous parlons ce soir de pratiques de plus en plus diffuses, de la recherche du bien-être qui dérive parfois vers l'isolement, vers l'emprise, sous l'influence de gourous 2.0, comme les a appelés le gouvernement français il y a quelques jours. Ces risques, ils sont au cœur du dernier rapport de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le nombre de signalements a grimpé de plus de 30% en un an. Alors comment faire la distinction entre liberté individuelle, liberté de pensée, recherche du bien-être et la dérive sectaire sur laquelle alerte ce rapport? C'est la question de notre débat du jour sur RFI. Bienvenue.
RFI.
Alors il y a beaucoup de choses dans ce rapport de la Miviludes. On n'aurait évidemment pas le temps de tout évoquer en une demi-heure. Mais il nous a paru intéressant de se pencher sur un point qui a attiré l'attention cette année, c'est le secteur du bien-être et du développement personnel. On en parle ce soir avec trois invités. Bonsoir Francine Comel.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente nationale du Centre contre la manipulation mentale. En face de vous, Jean-Louis Adenor, journaliste à l'hebdomadaire Marianne. Bonsoir. Vous avez co-écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Le nouveau péril sectaire » qui est paru aux éditions Robert Laffont. Et puis en ligne avec nous, le psychologue Nicolas Sajus. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'accompagnement de pseudothérapie et d'emprise sectaire. Ma première question est pour vous, qu'est-ce que sont les pseudothérapies ?
Alors, il y a deux axes dans ces pseudothérapies. Alors, c'est ce que j'ai un peu expliqué aussi dans la sortie d'un ouvrage et qui vient aussi rejoindre le dernier rapport de la Miviludes, c'est-à-dire que la question aujourd'hui c'est de ces pseudothérapies, c'est qu'elles viennent utiliser la question même de la souffrance avec une défaillance sur deux axes, la question même de la scientificité qui s'interroge et pour certaines, même quand elle y est, la question même de la posture de celui qui va l'utiliser et qui va avoir une posture de dominant, d'influence, de séduction et qui va petit à petit, par des techniques, arriver en tout cas à modifier les attitudes, la manière de penser, le comportement, les agir et ça va aller jusqu'aux questions financières aussi par rapport à la personne.
Francine Comel, c'est ça ce qui se passe? C'est une dérive sectaire dans le domaine du bien-être? C'est comme dans tous les autres secteurs finalement?
Exactement, il n'y a pas tellement de différence avec les autres secteurs. C'est effectivement une recherche de la part des gens qui font appel. Il y a des circonstances actuelles qui font que tout est favorisé par rapport à ça. En particulier toute cette période du Covid qui a... Et puis cette culture de l'inquiétude, de l'angoisse qui est en train de se répandre avec tout ce qui concerne l'environnement. Et puis l'environnement non seulement au point de vue écologique, mais aussi au point de vue international, qui font que les gens recherchent effectivement un bien-être quelque part. Et donc ils sont capables de tomber sous n'importe quelle influence.
Dans le rapport de la Miviludes qui est paru la semaine dernière, donc cette mission gouvernementale de lutte contre les dérives sectaires, on parle de dérives sectaires à l'état gazeux. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Louis Adenor?
Eh bien, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si on les compare avec les dérives sectaires telles qu'on les connaît de façon un peu caricaturale, disons archétypale, dans les années 80-90, où on avait vraiment de grandes structures qui avaient des gourous identifiés, je pense à la scientologie, je pense aux témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, le discours sectaire et le risque d'emprise mentale et donc d'emprise sectaire est beaucoup plus diffus. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à regarder des vidéos sur YouTube, à participer à des canaux de conversation sur Telegram et sur WhatsApp. Petit à petit, perdre pied et entrer sous emprise avec des personnes qui sont moins bien identifiées, des groupes qui vont pouvoir se dissoudre, se reconstituer autrement. C'est ça que la Miviludes a voulu caractériser en parlant d'état gazeux. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est plus difficile aujourd'hui de repérer et de lutter contre ces groupes-là, puisqu'ils sont moins bien identifiables et bien moins structurés qu'auparavant.
Et est-ce qu'ils ont la même capacité d'emprise, Nicolas Sajus? Parce que je reconnais, je suis peut-être la seule à avoir cette image assez cliché, mais c'est un peu ce que nous décrivait Jean-Louis Adenor. Moi, quand j'entends le mot secte, je pense à un groupe constitué avec ce qu'on appelle un gourou à sa tête, avec une capacité d'isoler une personne de son entourage. Est-ce que le même phénomène d'emprise, Nicolas Sajus, est possible aujourd'hui à distance?
Alors oui, et alors ce qui est dit est très pertinent et je dirais même que non seulement les structures ne sont pas aussi identifiées que jadis, mais aujourd'hui ce qui pose souci aussi c'est que c'est des courants philosophiques de religiosité qui sont utilisés par des personnes charismatiques et aujourd'hui c'est ce qu'on nomme les gourous 2.0 qui irradient aussi sur les réseaux sociaux, utilisant aussi la vulnérabilité, la méconnaissance et induisant aussi cette massivité d'induction à la religiosité qui est syncrétique, hein, c'est tous les courants qu'on appelle New Age en fait, pour être clair, des pratiques où il serait des personnes salvatrices, en tout cas de la souffrance. Et ce que je me permets de rajouter, c'est que ça correspond aussi cette posture qu'ont, et en tout cas les versants que prennent ces personnes-là aussi, à ce qu'on a vu au travers de l'histoire de l'humanité, c'est que chaque fois qu'il y a eu une baisse des valeurs, une baisse de la religion, hein, telle que Arendt l'a définie, c'est-à-dire que la religion, c'est ce qui crée la fraternité, les liens entre les hommes, chaque fois qu'il y a eu des baisses de ces valeurs, on a vu arriver aussi ces courants dogmatiques qui sont très fins aujourd'hui parce que ils sont pas aussi clairs ou structurés tels que ils ont pu l'être dans les années 80-90 effectivement.
D'ailleurs, si je peux juste intervenir pour compléter, la limite entre la pratique, disons, pseudo-thérapeutique et la pratique spirituelle est de plus en plus floue. On le voit dans certains groupes, je pense notamment à la médecine anthroposophique ou à certaines pratiques, disons...
Expliquez-nous en deux mots ce que c'est, parce que je suis pas sûre que nos auditeurs soient familiers avec absolument. Ce concept.
Alors, pour faire très, très simple et très rapide sur la médecine anthroposophique, en gros, l'anthroposophie, c'est un courant ésotérique, donc disons-le en termes simples, disons plutôt magique, qui a été créé par un occultiste autrichien qui s'appelle Rudolf Steiner, qui a développé toute une doctrine qui est basée sur des visions et des intuitions qu'il avait, donc sur absolument rien de scientifique, c'est important de le rappeler. Et cette pensée-là a essaimé, il a créé un courant, disons, pseudo-pédagogique, un courant agricole et également un courant pseudo-médical. Aujourd'hui, ces courants existent toujours. Ils sont très peu connus par le grand public, mais ils existent toujours et ont donné certaines, disons, applications ou certaines grandes théories qui sont parfois appliquées et comprises de façon thérapeutique ou scientifique, alors qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire que les limites entre ce qui est de l'ordre de la science et ce qui est de l'ordre de la spiritualité, disons-le juste comme ça, sont devenues très floues. Et on le voit aujourd'hui quand des personnes parlent de bien-être, on se retrouve parfois à parler d'énergie, on se retrouve parfois à parler d'environnement. Exactement. Et en fait, c'est que la façon de percevoir la santé comme un tout, ce qui n'est pas forcément une idée absurde, hein, pour aller bien, il faut être dans un environnement qui nous correspond, qui nous fait du bien, il faut pouvoir s'épanouir psychologiquement, mais donne des concepts qui sont des concepts pseudo-scientifiques, en fait, qui n'ont, pour ainsi dire, rien de scientifique, et qui vont être utilisés par des pseudo-thérapeutes, en l'occurrence, pour essayer de prescrire des schémas de soins, des comportements à adopter. Ces comportements-là, s'ils sont lus et compris d'une façon purement spirituelle, et qu'ils ne sont pas de l'ordre de l'emprise, j'ai presque envie de dire pourquoi pas. Chacun est libre d'imaginer que dans sa maison, il faut allumer une bougie quand on rentre le soir, parce qu'on se sent mieux. Pourquoi pas, s'il n'y a pas d'emprise derrière. Mais à partir du moment où on le maquille d'un fond, d'un phare scientifique qui est erroné, à ce moment-là, il y a tromperie sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose aux gens et sur ce qu'on facture aux gens.
Francine Comelle, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce que dit Adenor, mais il est bien certain qu'à partir du moment où on présente quelque chose comme étant une vérité, c'est-à-dire que la vérité est là et tout ce qui est en dehors est de l'erreur, là, on est véritablement dans le début de l'emprise. Et c'est ça qui est où il faut être très, très vigilant. Les croyances, on n'a aucune raison, on peut croire en n'importe quoi à partir du moment où on ne porte pas préjudice à autrui.
Et si, encore une fois, je peux compléter. Je pense à un cas qui est cité par le rapport de la Miviludes. On parle beaucoup de Thierry Casasnovas. Beaucoup de gens, quand on leur... Alors, pour faire très court, Thierry Casasnovas, c'est une personne qui a théorisé le fait que la médecine actuelle, en gros, rend malade les gens et que pour aller mieux, il suffit de manger cru, qui est en fait une théorie assez ancienne. Il n'a rien inventé. Hein. C'est quelque chose qui est présent depuis les années 60-70 déjà. Donc, il n'a absolument rien inventé. Exactement. Beaucoup de gens nous disent, mais en fait, moi, si j'ai envie de manger végétarien, vegan et de boire des jus de fruits, ça me fait du bien, pourquoi pas ? Aucun problème. En revanche, On observe que dans le cas de Thierry Canasnovas, il y a un cas qui est rapporté dans notre ouvrage, mais qui est connu. Hein, c'est, je pense que n'importe qui peut se renseigner sur Internet et trouver ce cas-là, d'un jeune garçon, d'un adolescent qui a le diabète, qui a une forme assez grave de diabète, qui se documente uniquement par des vidéos de Thierry Canasnovas pendant des semaines sur sa maladie, et qui en fait se met dans une posture de rejet total de la médecine, qui se met à penser qu'il peut guérir uniquement en suivant ce régime, et qui du coup arrête son insuline. Fatalement, ce garçon se retrouve à l'hôpital, fatalement. Et quand on lui demande, quand on lui parle, quand le médecin qui a raconté, l'infirmier je crois, qui a raconté l'histoire à la presse, lui parle, il se rend compte qu'en fait, cet adolescent-là est dans une forme d'emprise, parce que quand on a un diabète de forme grave, alors je ne suis pas scientifique, je ne prendrai pas ce titre-là absolument pas ce soir, mais il se trouve que cet adolescent était dans une forme grave de diabète. Il a un régime qui est très contraignant. Hein. Tout ce que les adolescents de son âge font, il ne peut pas le faire. Je pense notamment à sortir et boire de l'alcool. Et il est soumis à une prise de médicaments assez lourde. Personne n'a envie de se retrouver là-dedans. Et quand on a un discours qui nous est présenté comme étant un discours miracle, c'est exactement ce que Francine disait, qui explique qu'on détient la vérité et que le reste, la médecine traditionnelle, la médecine scientifique ne fait pas effet, à ce moment-là, il y a un risque d'emprise, il y a un risque de dérive.
Là, vous nous parlez d'une personne malade, mais c'est valable aussi pour le bien-être et ce qu'on a évoqué depuis le début de cette émission. On a l'impression, Nicolas Sajus, qu'il y a un élément qui se retrouve dans toutes ces situations, c'est la recherche de sens.
Alors, c'est ce qui me semble et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que de manière générale, tout être humain ne peut pas vivre s'il n'a pas du sens, sauf qu'aujourd'hui, il y a des promoteurs du bonheur, comme s'il fallait, alors je pense moi à la mode du coaching aussi, où aujourd'hui tout se coach, où on peut penser pour l'autre, où on peut lui dire la vérité, sa vérité, et c'est ce qui interpelle aussi, et je reviens aussi sur les confusions qu'il y a, et je rejoins tout à fait ce qui est dit par rapport à la question même du spirituel, des états modifiés de conscience aujourd'hui qu'on peut faire et des patients que je peux suivre aussi, où on est sur des postures aussi de personnes qui utilisent la fragilité de jeunes, d'enfants, et je tiens à dire ça notamment eu égard au Covid qui les a beaucoup déstabilisés, je pense comme beaucoup de personnes, mais c'est des populations très vulnérables, et où tous les phénomènes de suggestion, induction sont faits aussi, je parlais de séduction pour aller prôner la vérité, et je pense à des patients qui ont été suivis par des coachs et là aussi pas pour de l'anxiété, des troubles dépressifs parce qu'ils avaient une mauvaise estime d'eux-mêmes et qui sont sortis notamment de sessions groupales ou individuelles dans des états qu'on appelle dissociatifs, soit dépressifs, soit je me rappelle d'un jeune qu'il a fallu que je fasse hospitaliser parce qu'il était délirant au sortir de ces pratiques-là. Et là aussi, c'est comprendre que ces enjeux-là, dès le moment, et c'est ce qui est dit, se situent dans la vérité, sont dans le dogme et sont dangereux, en fait.
En apportant, et ça, on le retrouvait déjà dans les sectes à l'ancienne, si je peux le dire comme ça, Francine Comel, en apportant des réponses.
Ils apportent des réponses, ils apportent des vérités, encore une fois. Comme le disait notre interlocuteur au téléphone, c'est le dogme. Donc tout ce qui est dogmatique est à rejeter. Et ça ampute complètement l'esprit des gens en leur supprimant tout à fait la possibilité du libre arbitre, ce qui est dramatique. Et on perd toute la liberté. Et on est persuadé, et on l'a bien vu avec le Covid quand même, qui a isolé beaucoup de gens, au bout d'un moment, ils ont la vérité, et c'est eux qui ont raison, et les autres sont à écarter. Donc vous avez effectivement la première étape qui est la séduction, l'autre étape c'est la séparation et les priver de tout leur environnement.
Ce qui nous amène au rôle des réseaux sociaux. Vous nous parliez de l'isolement, notamment pendant la pandémie de Covid. C'est plus si nouveau, Jean-Louis Adenor, les réseaux sociaux, mais est-ce que ça a joué un rôle quand même ?
Il y a eu des phénomènes qui ont vraiment été propres aux réseaux sociaux qui sont passés pendant la période du Covid. Je pense notamment à une espèce de convergence entre le discours complotiste et le discours sectaire. Oui, c'est d'ailleurs ce que la Miviludes souligne dans son rapport. Je pense aussi à une espèce disons un peu même d'agrégation des communautés qu'on n'avait pas avant. Avant, quand les communautés se retrouvaient dans des lieux particuliers, certaines groupes ne se rencontraient jamais. En fait, aujourd'hui, on voit qu'un Casasnovas va être proche d'un Tal Schaller, qui est un gourou suisse, je crois, de mémoire, je me trompe peut-être, il me semble qu'il est suisse, ou d'un Crève-Cœur qui est québécois, oui. Voilà, de Crève-Cœur. On voit que ces gens-là ont agrégé leur communauté pendant le Covid. Ils disent parfois des choses qui sont complètement contradictoires sur l'état du monde, mais ils trouvent dans cette espèce de discours complotiste et contre-système une façon d'amener des personnes à eux. Et je pense notamment au cas de Jean-Jacques Crève-Cœur, qui est quand même très inquiétant, où là on est sur une théorie d'une dimension supplémentaire dans laquelle il va falloir, d'une dimension supérieure pardon, dans laquelle il va falloir aller un jour. Donc on se dit, comment est-ce qu'on accède à cette dimension là sinon par le décès, sinon par, enfin, c'est des choses qui sont très inquiétantes quand même, hein, qui sont c'est pas du menu fretin, si je peux me permettre de parler comme ça. Et en fait, ce qu'on a constaté effectivement l'année dernière, c'est une convergence, c'est-à-dire que les gens qui avant allaient voir Casas Novas parce que finalement le discours sur le cru il est pas complètement absurde, ils se disent pourquoi pas, moi j'ai envie de manger mieux, se retrouvent d'un seul coup en plein Covid, donc dans un moment qui est un moment de faiblesse, d'ignorance important sur l'état du monde. On ne sait pas ce qu'est le Covid, on ne sait pas d'où ça vient, l'État lui-même ne sait pas très bien, la science elle-même au début peine à donner des informations là-dessus ou des connaissances là-dessus, et on a ces discours-là qui sont tout prêts, qui sont préparés à ce moment de faiblesse psychologique-là, et ces personnes qui ont accédé à cette dimension-là par le cru vont se retrouver avec du crève-cœur sur YouTube parce qu'ils ont fait des lives en commun, en fait. Et donc c'est un phénomène qui est nouveau, qu'on n'a pas vu avant, et qui a consolidé quand même une audience assez importante. Alors après, il y a la question des plateformes. Café YouTube, par exemple. Il se trouve qu'aujourd'hui, les plateformes, parce que les pouvoirs publics ont aussi pris un peu les choses à bras le corps, ont décidé d'agir, ou en tout cas interviennent sur ces contenus-là. Malheureusement, que font ces personnes-là ? Elles se trouvent d'autres plateformes. Absolument. Qui sont moins connues, qui sont plus difficiles à atteindre. Je pense à Crowdbunker, par exemple. Encore que je ne devrais pas donner ces noms-là pour éviter que vos auditeurs ne s'y retrouvent. Mais on voit que c'est très, très difficile de mettre un terme à ce type de discours qui sont pourtant dangereux.
Et qu'on voit effectivement se multiplier sur les réseaux sociaux. Francine Comel, si tout ça prend de l'ampleur, et les pratiques et les discours, c'est quand même que ça répond à un manque.
Bien sûr, mais c'est ce que disait notre interlocuteur au départ. Il y a un manque, effectivement, une recherche de sens qui existe. Et puis, je pense qu'il y a quand même des insuffisances. Nous, en tant qu'association, nous recevons beaucoup d'appels de la part des familles, plus que des victimes eux-mêmes, parce que les victimes n'ont pas conscience d'être victimes. Et au niveau des familles, c'est extrêmement difficile. Ils ont beaucoup d'interrogations et ils sont obligés d'écouter. Enfin, c'est ce qu'on leur recommande en tous les cas, d'écouter le discours, d'essayer de voir les failles pour pouvoir éclairer un petit peu le sens critique des gens. Et bon, ça veut dire que nous sommes dans une société où il va falloir reprendre les choses depuis la racine.
Vous nous parlez, Francine Comel, des difficultés des familles et des proches à percevoir le moment où ça bascule. Où est-ce qu'on place la limite, Nicolas Sajus ? Parce que on parlait donc des pratiques de bien-être qui se multiplient depuis quelques années. Faire une retraite de yoga ou une semaine de jeûne ou une cérémonie autour de ce qu'on appelle par exemple le féminin sacré et ce qui revient beaucoup en ce moment, c'est des activités qui sont de plus en plus pratiquées.
Alors oui, mais ce qui va poser souci, je pense, alors pour revenir à votre questionnement sur la question intrafamiliale, c'est qu'en petit à petit, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu observer sur certaines pratiques, il y a un isolement de la personne face à sa famille qui va jusqu'à un rejet complet et l'isolement de cette dernière qui va aboutir à une et qui peut aboutir jusqu'à une rupture complète sans lien du jour au lendemain, et c'est là où cela interroge sur la question même de ces pratiques-là où la personne ne pense plus pour elle-même au fur et à mesure de ces sessions, mais en tout cas, elle pense par le tiers qui est par le tiers qui passe au travers d'elle, quoi, au travers de cette emprise qui s'est créée petit à petit. Et c'est là où ça pose vraiment le souci, parce que et c'est là où c'est une grande souffrance pour les famille, c'est de voir en tout cas partir un membre dans un dogme et une vérité où il peut y avoir de grandes incompréhensions aussi.
Est-ce qu'il y a des moyens de repérer ce genre de situation un peu à l'avance Jean-Louis Adenauer. Par exemple, dans son rapport, l'ami Vilude évoque les stages dits de masculinité au cours desquels les participants sont placés dans des situations vraiment de très grande vulnérabilité. Est-ce que ça, il faut le voir comme c'est vendu, c'est-à-dire un moyen d'endurcir les hommes et de leur redonner une place qu'ils auraient perdue? Ou est-ce que c'est déjà un premier pas vers une soumission et une porte ouverte vers l'emprise?
Alors, sur ce cas précis, je pense que le cas des stages de masculinité est vraiment assez atypique. Ce n'est pas un cas archétypal, je pense, dans la galaxie qu'on étudie. Je peux vous répondre sur cette question-là.
On peut l'élargir à d'autres. Alors, est-ce que le problème, sur les stages de masculinité, c'est la pratique en elle-même la manière dont on la met
la vérité,
en place?
Et je parle sous le contrôle de Francine, qui s'y connaît, je pense, mieux que moi sur le sujet, mais je pense que chacun réagit de façon différente à ce qu'il va vivre, à ce qu'il va traverser dans un groupe. Bien sûr qu'une personne qui est dans un état de grande fragilité va avoir plus de chances de tomber dans ce type d'emprise. Mais en réalité, on voit des gens qui sont des gens insérés, qui sont des gens qui ont des métiers à responsabilité, qui sont, qui n'ont pas le profil de personnes fragiles, qui tombent aussi dans ces choses-là. Je pense que le point important qu'on a abordé tout à l'heure, c'est la question du sens. Et très rapidement sur la question du sens, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Les gens se sont retrouvés chez eux, enfermés pendant 53 jours, je parle du premier confinement, avec devant eux leur famille, leur travail, leur vie quotidienne qui leur a échappé, tout leur cercle social de convivialité qui permet de se divertir un peu de ce quotidien-là qui leur a échappé. Et la question qui se pose, c'est la question du sens qu'on donne à sa vie, en réalité, à son travail. Et dans ces cas-là, effectivement, ces dérives-là, ces dérives sectaires-là sont extrêmement douées, sont extrêmement fortes pour réussir à dire « mais on va trouver du sens ensemble ». Sur la question des stages de masculinité, le fond de cette question-là, c'est qu'en réalité, il y a une question un peu politique, c'est-à-dire d'antiféminisme derrière qui, à mon sens, mais là, c'est moi personnellement en tant que citoyen, que je trouve dangereuse. Voilà, je trouve ça dangereux que des hommes se réunissent ensemble dans la forêt pour rappeler qu'ils ont en eux une essence virile qui leur permettrait d'être chef de famille. Je veux dire, ça va à rebours de tout ce qu'on essaie de construire aujourd'hui dans les sociétés occidentales modernes. Je veux dire, ça paraît quand même un peu fou. D'ailleurs, l'ami Vilude rappelle qu'il y a eu au moins 5 cas signalés d'hommes qui sont devenus plus ou moins violents en sortant de ces groupes-là. Est-ce que le point est un point... C'est vraiment la dimension sectaire qu'il faut prendre en compte. Sur ces stages-là, moi, je ne l'ai pas encore perçu. Ce que je vois, en revanche, c'est un risque d'ordre social important, en réalité, qui, à mon avis, est important. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus.
Tout à fait. Parce qu'en définitive, cette dérive sectaire... Bon, alors, on parle des stages de masculinité, mais il y a les stages de survivalisme. Ouais. Il y a tout ça qui entre en jeu. Et c'est quoi? C'est une contestation véritablement de la société et de la démocratie. Enfin, je veux dire, on est sur un plan de mise en danger de notre système et qui n'est pas de l'ordre de la violence comme on a vécu ça avec la radicalisation islamique, mais qui est exactement avec la même préoccupation, c'est-à-dire une contestation de l'État. Quand vous avez des éco-villages qui vivent en autarcie, alors, ça s'appuie maintenant sur sur tout ce qui l'environnement, etc. Mais il n'empêche qu'on est en autarcie, c'est-à-dire qu'on est entre nous et l'extérieur est mauvais. Donc ça, c'est contraire complètement à la philosophie de la République.
Avec des valeurs qui sont transmises directement aux enfants. Bon, une fois qu'on a identifié un groupe ou une personne dangereuse, qu'est-ce qu'on fait pour l'empêcher de nuire, Nicolas Sajus?
Alors, déjà, ce qui peut être fait, c'est l'ami Vilude est aussi là pour faire est un soutien, puisqu'il peut y avoir des signalements via l'ami Vilude, pardon. Le CCMM en fait partie. Il y a des associations, je pense au Jumpy, à toutes les associations d'aide, de soutien, à la fois pour les personnes et de repérage aussi par rapport à toutes ces personnes-là. Ce qui est complexe, alors là, c'est plus le domaine, c'est l'accompagnement de ces personnes qui est un chemin long aussi pour les aider à se restaurer à la sortie. Voilà. Après, sur les choses où il y a eu carrément du passage à l'acte, hein, je pense notamment à des abus sexuels, des viols. Là aussi, ça relève du pénal et des signalements directement qui sont faits via la police et gendarmerie, procureur de la République.
Mais encore faut-il, que les victimes puissent porter plainte.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a tout qui s'en mêle, la honte, le fait, puis à partir du moment où quelqu'un est majeur on ne peut plus rien faire.
Oui, c'est vrai.
Et quand on voit, par exemple, au niveau des personnes plus âgées, qui sont quand même souvent en vulnérabilité, c'est extrêmement difficile. Et la famille se retrouve vraiment tout à fait impuissante par rapport à la loi.
Sur quel ressort est-ce que vous appuyez-vous ?
Alors, nous, on s'appuie avec la famille sur le fait qu'éventuellement, bon, si elles ont des faits à apporter. Alors, il y a effectivement les signalements à la Miviludes et puis il y a quand même le signalement au procureur de la République. Et nous, notre boulot, c'est d'essayer d'aider ces familles-là à énoncer tout cela, mais ça veut dire qu'ils prennent des risques aussi, et des risques de rupture plus importantes avec les uns, avec les autres. Donc, c'est vraiment la panoplie de lois est incomplète là-dessus. Mmh. Même s'il y a eu des progrès.
Ouais, alors je rejoins tout à fait ce que Francine vient de dire. En fait, il y a un problème principal dans la lutte contre les dérives sectaires, c'est que tout repose sur la victime. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement... ça ne marche pas parce que la victime, déjà, n'en a souvent pas conscience. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est très juste. Les familles sont dans une situation qui est souvent terrible, où elles-mêmes n'ont pas 10 ans à mettre dans ces luttes-là. Une victime qui sort et qui en a conscience, elle veut passer à autre chose en général. Hein. Elle ne veut pas se relancer dans une procédure qui va durer 10 ans devant les tribunaux. Il y a deux choses importantes. Les moyens de l'État. Déjà, première chose importante, les moyens de l'État. Aujourd'hui, à la Miviludes, ils sont, je crois, 12 conseillers pour des dérives sectaires qui sont à 4000 signalements en ce moment. Enfin,
Et pourtant, les moyens de la Miviludes ont été considérablement augmentés.
Alors, considérablement, c'est l'élément de langage du gouvernement. Ils ont été renforcés. Ils ont été renforcés. Mais en attendant, 12 conseillers pour autant de dérives sectaires, ça paraît quand même assez étrange. Par ailleurs, il y a un point, et ça, pour le coup, là-dessus, on peut reconnaître le volontarisme de la ministre, de la secrétaire d'État, pardon, à la citoyenneté, Sonia Backès, qui a dit dans un entretien à Marianne, petite pub en passant, qu'il fallait renforcer les outils judiciaires pour lutter contre les dérives sectaires. Et c'est très important, parce que là où il y a les dérives sectaires, il n'y a pas seulement une victime qui est sous emprise. En général, il y a de l'exercice illégal de la médecine, du charlatanisme, de l'emprise financière, parfois de l'escroquerie. Chez les témoins de Jéhovah, où il y a de la mise en danger de la vie d'autrui, où il y a des cas, le psychologue disait tout à l'heure, il y a des cas d'agression sexuelle et d'abus sur victimes. Il y a tout un continuum d'infractions, de délits, qui peuvent être identifiés par le travail de police et le travail judiciaire qui ne repose pas uniquement sur la parole de la victime. Je parlais avec un expert de la scientologie la dernière fois qui me disait, mais pourquoi est-ce qu'on attend systématiquement que des gens parlent, des victimes parlent dans la scientologie ? On sait très bien que dans ces centres, dans ces bâtiments, il y a du charlatanisme, de l'escroquerie, parfois du trafic de stupéfiants, ce genre de choses. Il suffirait d'aller sur ces choses-là moyens.
Puisque vous en parlez de la scientologie, on voit bien qu'on a des difficultés puisque la scientologie a été classée comme secte dans plusieurs rapports du Parlement. Et pourtant, on n'a pas réussi à l'empêcher de s'installer à Saint-Denis,
c'est bien dire,
en banlieue parisienne.
Bien sûr, mais il faut prendre la mesure du pouvoir financier de ces groupes-là. Déjà, ce sont des gens qui sont extrêmement riches, qui ont les moyens de faire de ce qu'on appelle du harcèlement judiciaire des personnes qui parlent. On voit également que, même en termes philosophique, c'est-à-dire que sous Sarkozy, on a quand même une directrice de cabinet qui dit « ce n'est pas à moi de dire si la scientologie est ou non une secte ». Il faut aussi mesurer qu'on est face à ce changement de paradigme.
Qui avait aussi reçu Tom Cruise,
exactement,
qui est un des plus grands ambassadeurs de l'église de la scientologie.
Exactement. Il faut comprendre qu'on est devant ce changement de paradigme et que c'est dangereux, en fait. En France, on a la chance d'avoir la Miviludes, on a la chance d'avoir ce tissu associatif qui permet de recueillir la parole des victimes. Il faut aussi former les magistrats, il faut aussi former les enquêteurs.
La police.
Et c'est un travail qui est en cours. Je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait, hein, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut continuer ce travail-là et surtout donner les outils. Et on verra si la secrétaire d'État tient sa parole et si les assises ont lieu au début d'année prochaine et si vraiment on aboutit à une feuille de route claire sur ce sujet-là, permettre aux magistrats et aux enquêteurs d'aller vraiment vérifier, contrôler et ne pas se reposer uniquement sur la parole de personnes qui sortent d'un moment terrible de leur vie où ils ont une seule envie, c'est de passer à autre chose.
On avance selon vous, Francine Comel ?
Il y a des changements, on en parle, c'est déjà ça. Parce qu'il fut un temps où, de toute façon, la parole... Quand on recevait, par exemple, une victime au téléphone ou même de visu et qu'on leur disait « il faut aller à la gendarmerie » ou... Dans beaucoup, beaucoup d'endroits, c'était pas du tout entendu. Actuellement, il y a quand même toute une formation. Il faut reconnaître les choses. Il faut avoir de la patience. Malheureusement, on est toujours un peu pressé. Puis quand c'est une victime... Elle est toujours en danger quand même.
Merci beaucoup, Francine Comel. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission.
Merci à vous.
Francine Comel, je rappelle que vous êtes vice-présidente du Centre contre la manipulation mentale. Jean-Loup Adenor, journaliste à Marianne, auteur avec Timothée de Roglaudre du livre « Le nouveau péril sectaire » paru chez Robert Laffont. Et Nicolas Chajus, psychologue spécialiste des sectes.